Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec le journal dans quelques secondes et à 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéressera au monde qui vient. Le changement dans nos vies que va engendrer le nouveau monde à la sauce Covid, shopping en ligne, télémédecine, travail à distance. Et puis, on va voir plus grand aussi ce soir. Car la Chine est en train de prendre le pouvoir et de changer aussi nos vies. On en parlera avec nos invités. C'est en partenariat avec le journal Courrier International. Le journal donc d'abord avec Isabelle Millet. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
À 18h, confinement, on y voit un peu plus clair ce soir sur les pistes de l'exécutif pour tenter d'endiguer l'épidémie. On vous dit tout dès le début de ce journal.
La mobilisation des hôpitaux privés qui se joignent à la campagne de vaccination, conscient de la course contre la montre qui est engagée.
Demander à ses salariés de porter des colliers qui sonnent en cas de rapprochement physique trop important, c'est l'idée très controversée du groupe suédois Essity qui compte 2500 salariés en France.
Vers un rapprochement entre Carrefour et le groupe canadien Couche-Tard.
Peut-être, en tout cas vous ne le connaissez pas ce groupe, c'est pas grave, on va vous le présenter.
Didier François viendra quant à lui nous parler de ce maxi-procès qui s'est ouvert en Calabre.
La 'Drangheta, la plus puissante mafia d'Italie au banc des accusés et puis des retrouvailles électriques en vue ce soir entre Marseille et Paris pour le trophée des champions.
Et la météo, ça s'annonce plutôt mal pour demain. Attention, prudence, de la pluie, de la neige et des vents forts.
Oui, avec un épisode neigeux remarquable qui va concerner le nord-est. 9 départements sont actuellement placés en vigilance orange. Beaucoup de pluie sur le reste du pays. Seul le soleil se montrera au bord de la Méditerranée. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et l'exécutif a donc passé cette journée à plancher sur les nouvelles mesures à mettre en place face à l'épidémie qui se renforce avec le développement de la variante britannique. Le président du conseil scientifique parle de course de vitesse.
Louis Dragnel, les annonces, c'est pour demain. Alors confinement, couvre-feu, que faut-il attendre ?
Eh bien, tout n'est pas encore tranché. Emmanuel Macron rendra ses derniers arbitrages demain matin. En revanche, la mesure la plus importante qu'on sait déjà, c'est l'annonce d'un couvre-feu à 18h pour tous sur tout le territoire, avec effet à partir de la fin du week-end prochain. Pour freiner le variant, le gouvernement réfléchit encore à des mesures de limitation des flux avec l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne, où les déplacements sont déjà fortement déconseillés par le Quai d'Orsay. Les contrôles sanitaires aux frontières devraient aussi être renforcés et des restrictions mises en place entre l'île de la Réunion et Mayotte. Au gouvernement, on insiste pour expliquer que les décisions qui seront annoncées demain sont strictement collées à la situation sanitaire. Mais il faut le dire, cette situation n'est pas très claire. Les données épidémiques des vacances de Noël ne sont pas jugées catastrophiques. Nous restons sur un plateau haut. Et en même temps, la perspective de la diffusion du variant inquiète les plus hautes autorités sanitaires. En tout cas, la situation est jugée suffisamment critique pour que le Premier ministre lui-même prenne la parole demain soir à 18h. Entouré de plusieurs poids lourds du gouvernement, le ministre de la Santé Olivier Véran bien sûr, mais aussi Bruno Le Maire ou encore Roselyne Bachelot.
Merci à Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Alors aujourd'hui, tous les spécialistes disent que seule une vaccination rapide et à grande échelle permettra de nous sortir de cette crise.
Une campagne de vaccination qui a commencé, vous le savez, et qui reçoit le soutien des hôpitaux et des cliniques privées, comme a pu le constater Lionel Gougelot à Lille, où l'hôpital privé Le Bois accueille les professionnels de santé de plus de 50 ans qui souhaitent recevoir la première injection.
Je viens d'être vaccinée, tout va bien, je vais m'en aller parce que j'ai aucune réaction, pas de douleur, rien du tout.
Médecins de ville, infirmières libérales, kinés ou dentistes, ils étaient déjà nombreux aux premières heures de la matinée pour se faire vacciner. Un engouement qui bluffe le docteur Clairvoûte, retraité venu renforcer les équipes de vaccination.
Ça m'impressionne de voir tous ces gens qui viennent et qui saturent les standards téléphoniques pour la réservation. Et le fait que les médecins foncent, enfin les médecins ou les professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que des médecins ici, je pense que cet exemple est important.
260 professionnels de santé vaccinés en une journée, un dispositif bien rodé, assure Laurent Delmer, le directeur de la clinique du Bois.
Ça prend 10 minutes, donc ça va très vite. On met des rendez-vous tous les 5 minutes et il y a une dizaine de personnes qui reçoivent pour qu'on puisse aller le plus vite possible. On s'aperçoit que ce matin, par exemple, à 6h30, on avait déjà plus d'une trentaine de personnes qui allaient avant d'aller travailler.
Si je pouvais avoir un petit badge ou un petit pins pour dire je suis vacciné, je le porterais très volontiers.
Marie-Agnès Dreck, chirurgien-dentiste, ressort enthousiaste du cabinet de vaccination, se félicitant par ailleurs de la mobilisation des hôpitaux privés dans la campagne.
On est quand même dans une course contre la montre, enfin je trouve. Hein. Donc plus on aura d'acteurs dans la mobilisation, dans la vaccination, plus on le fera savoir et mieux on se portera tous. En fait, je veux dire, faut vraiment qu'il y ait un élan collectif autour de cette démarche-là.
Une campagne qui va se dérouler ici jusqu'à la fin du mois, avec dès lundi prochain la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
On dit que pour ne pas être contaminé, il faut éviter les contacts trop rapprochés. Eh bien, une entreprise suédoise a manifestement pris cette consigne au pied de la lettre, peut-être même un peu trop.
Oui, certainement. En tout cas, le groupe Essity souhaite équiper ses 2500 salariés français d'un boîtier qui sonnerait en cas de rapprochement physique trop important. Système comparable, vous savez, au collier que l'on met aux chiens pour les dissuader d'aboyer ou bien de franchir le périmètre du jardin. Initiative choquante pour Christine Duguet. Elle est déléguée syndicale CFDT chez Essity.
Personne n'en veut de ce boîtier. C'est une atteinte aux libertés individuelles. Vous imaginez, vous vous promenez avec un badge là-haut, avec une dragonne autour du cou, et dès que vous êtes à moins de 2 mètres d'un salarié, ça vibre et il y a une alarme qui se déclenche. C'est complètement infantilisant, quoi. La commande est déjà passée. On sait que le système, les boîtiers sont déjà commandés et ils nous disent qu'aujourd'hui, ils vont discuter avec nous. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de dialogue social. Ils ont clairement décidé de le mettre en place, sauf qu'on n'est pas d'accord.
La colère de la déléguée syndicale CFDT de chez Essity, jointe pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois. La direction se justifie, elle assure que ce dispositif ne comporte pas de système de géolocalisation et n'est pas relié à des infos personnelles.
Et si Carrefour passait sous pavillon canadien ? On en parle ce soir car le groupe de grande distribution aiguise l'appétit du Canadien. Couche-Tard, c'est son nom.
Et oui, le géant français est fortement convoité, Emmanuel Duteil, par ce groupe d'alimentation qui souhaite donc un rapprochement amical. Couche-Tard propose 20 euros par action, ce qui valorise Carrefour à plus de 16 milliards d'euros hors dette. Alors Emmanuel, on ne connaît pas Couche-Tard en France. Qui d'abord est ce groupe qui veut racheter Carrefour ?
Eh bien, c'est un mastodonte de la distribution. Il est spécialisé dans les commerces de proximité et toutes les petites supérettes. Ceux qui sont allés au Québec connaissent ce que l'on appelle là-bas les dépanneurs. Parmi les marques les plus connues de Couche-Tard, il y a Circle K, là, qui est plus connu notamment aux États-Unis. Un distributeur qui a une particularité importante selon Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution.
Il réalise la majorité de son activité avec du carburant, qui représente très exactement 72% de son chiffre d'affaires et surtout 40% de sa marge. Ça veut dire que c'est finalement plus un pétrolier qu'un distributeur.
Et justement, c'est à cause de cette dépendance que le groupe veut préparer l'avenir et donc mettre la main sur Carrefour. Chez Carrefour, on reconnaît que cette offre est suffisamment intéressante pour être regardée avec intérêt.
Mais qu'en pense-t-on, Emmanuel, à Bercy ?
Alors déjà, je peux vous révéler qu'à Bercy, on l'a appris ce matin par la presse, comme nous tous. Le ministère de l'économie n'avait pas été prévenu. Et je peux également vous révéler qu'à première vue, ils ne sont pas favorables à cette opération. S'ils voulaient s'y opposer, ils peuvent le faire. La sécurité alimentaire est sur la liste des secteurs protégés par le contrôle des investissements étrangers. La France, si elle était saisie, pourrait donc bloquer tout simplement cette opération.
Eh bien, merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné de s'être servi de son poste de président du conseil départemental de l'Eure pour favoriser les intérêts d'une société d'autoroute.
Quant à Éric Dupond-Moretti, visé lui aussi par une enquête pour prise illégale d'intérêt, il se dit aujourd'hui totalement serein et estime n'avoir rien à craindre.
L'ancienne garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, elle renonce à présider la commission indépendante sur l'inceste après avoir été citée parmi les proches d'Olivier Duhamel, accusé de viol incestueux par sa belle-fille, Camille Kouchner. Le climat actuel ne me permet pas, dit-elle, de conduire cette mission avec la sérénité nécessaire. Elle reconnaît avoir ignoré pendant toutes ces années les faits gravissimes dénoncés dans le livre.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h10 avec Isabelle Millet. On part en Italie avec ce procès exceptionnel qui s'est ouvert aujourd'hui en Calabre. Celui de la 'Ndrangheta, considérée comme la mafia la plus secrète et la plus dangereuse au monde, mais aussi comme l'organisation criminelle la plus tentaculaire d'Italie et d'Europe.
Et on en parle avec notre spécialiste des questions internationales. Bien sûr, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
355 accusés, 913 témoins, 400 avocats. C'est incroyable, on n'avait pas vu ça depuis plus de 30 ans.
C'est ça, depuis le maxi procès de Palerme en 86 contre la Cosa Nostra sicilienne. On est exactement sur le même modèle avec une salle d'audience de plus de 3000 m² construite pour l'occasion dans une zone industrielle et conçue comme un véritable bunker avec des vitres blindées, des sas de sécurité et des cages en acier trempé. Il faut dire que la justice italienne s'attaque là à du lourd et même à du très lourd parce que, effectivement, la mafia calabraise, elle est certes plus discrète que ses concurrentes siciliennes ou napolitaines, mais elle n'en est pas moins dangereuse. D'abord, elle est beaucoup plus puissante, puisqu'elle s'est tournée vers la drogue dès les années 70 en introduisant en Italie et à destination de toute l'Europe, du cannabis produit au Maroc. Elle s'est donc rapidement internationalisée, tissant des liens avec tous les narcotrafiquants de la planète, en Turquie, en Colombie, au Mexique et jusqu'en Chine. En 2005, la DEA, donc l'Agence américaine de lutte contre la drogue, estimait que la 'Ndrangheta gérait 15% de la production des cartels latino-américains, au point qu'elle contrôle aujourd'hui 80% de la cocaïne qui circule en Europe. Et en 2013, son chiffre d'affaires était évalué à 53 milliards d'euros. C'est 3,4% du produit intérieur brut italien. C'est donc énorme.
Et surtout, son activité criminelle ne se limite évidemment pas à l'Italie. C'est ce que vous disiez, hein. Ça s'est internationalisé.
Et c'est bien ça le problème. Hein. Avec de telles sommes en jeu, vous comprenez, la mafia calabraise est devenue une véritable pieuvre européenne. Une mafia en col blanc, spécialisée dans le recyclage de l'argent sale, avec des capacités de corruption colossales. Alors la Ndrangheta préfère effectivement acheter qu'assassiner, mais ça ne l'empêche pas de recourir au meurtre le plus brutal. Elle a aussi mis au point une stratégie d'infiltration discrète des administrations à grande échelle, ce qui la rend particulièrement redoutable. Elle vise par exemple les autorités portuaires en Allemagne, aux Pays-Bas, parce que les ports de Hambourg ou de Rotterdam sont des points d'accès indispensables pour faire entrer la drogue en Europe. Puis ensuite, elle va financer le rachat de grands restaurants ou d'hôtels de luxe sur la Côte d'Azur pour blanchir l'argent du trafic grâce à la comptabilité de ces commerces tout à fait légaux. Et puis elle a aussi investi dans des fermes en Pologne, en Hongrie ou en Bulgarie afin de détourner massivement les subventions de la PAC. Vous savez, la politique commune agricole. Eh bien, ce procès devrait donc être l'occasion d'une prise de conscience que la corruption est désormais une menace pour l'ensemble des États et des institutions de l'Union européenne.
Et c'est un procès, dit-on, qui devrait durer au moins 2 ans. Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. On passe au foot. PSG-OM, c'est ce soir à Lens. C'est le trophée des champions, Isabelle.
Oui, 4 mois après leur dernière joute en septembre, qui a vu l'OM l'emporter pour la première fois depuis 10 ans au Parc des Princes, mais qui s'était surtout terminée, Julien Froment, par une baston générale. Hein.
Oui, clairement, c'était tout sauf du football, une bien triste publicité pour notre Ligue 1. Mais depuis septembre, pas mal de choses ont changé, notamment sur le banc de touche du Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Mauricio Pochettino, que vous avez appris à découvrir ces dernières semaines. L'entraîneur argentin a été joueur du PSG entre 2001 et 2003. Il a donc déjà affronté Marseille. Son bilan est d'ailleurs équilibré en tant que joueur. 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites et 1 but inscrit. Il sait donc de quoi il parle. PSG-OM, ça ne se joue pas, ça se gagne.
Ma motivation est immense. C'est un match vraiment spécial. On va jouer contre un rival, l'Olympique de Marseille. Je crois que la fierté est vraiment plus importante que le titre. Notre objectif est de gagner le match.
Alors Mauricio Pochettino a d'ailleurs publié sur son compte Instagram une série de photos illustrant ses face-à-face avec l'OM. Il en ferait presque une affaire personnelle, d'autant plus qu'il a l'opportunité, seulement 11 jours après son arrivée au club, de remporter le tout premier titre de sa carrière en tant qu'entraîneur.
Julien Froment à Lens, puisque ce match se jouera donc au stade Bollaert à partir de 21h, à suivre dans Europe Soir, bien sûr, avec Julien Pierce.
Bien sûr. Merci Isabelle, on vous retrouve demain dans le 18-20 à partir évidemment de 18h. Un petit coup d'œil au temps à 19h14 avec un épisode neigeux important demain à Nice, dans une partie de la France, dans le nord notamment.
Oui, le nord et le nord-est en fait, de Lille jusqu'à Strasbourg sur une partie des Vosges et également nous avons 9 départements placés en vigilance orange, neige, verglas. Alors il s'agit des Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges et le territoire de Belfort. Sur ces départements, on attend des cumuls de l'ordre de 7 à 15 cm, voire localement plus. Autour de Strasbourg, il y aura un petit peu moins de neige, mais 3 à 7 cm. Et en fait, ce sont des valeurs qui sont devenues inhabituelles en plaine. C'est vrai que ça faisait quelques hivers qu'on n'avait pas eu de neige en ville. Il pourra tomber jusqu'à 30 cm de neige sur le massif des Vosges. Attention, on a aussi un risque d'avalanche du côté du Jura. Et puis dans la Meuse, ça c'est une info importante, si vous nous écoutez là ce soir, notez-le, dans la Meuse, les bus scolaires ne circuleront pas demain toute la journée. Plus au sud, la Haute-Savoie, elle aussi classée en vigilance orange, neige, verglas, parce que là aussi, comme aujourd'hui, beaucoup de neige du côté de la Haute-Savoie. Partout ailleurs en France, on aura de la pluie, une perturbation va traverser le pays. Il n'y a que le pourtour méditerranéen et la Corse qui seront sous le soleil, mais oui. Attention, là aussi, le vent va souffler très fort, des vents violents, jusqu'à 110 km/h au bord de la Grande Bleue demain.
Merci Nissa. Prudence, donc on suivra l'évolution de la situation dans les prochaines heures et évidemment demain avec vous Nissa à partir de 18h. Dans quelques secondes, on va se projeter dans l'année qui vient et tous les bouleversements que va engendrer le Covid dans le débat du Club des Idées pour nos vies. Hein, vous verrez que c'est très concret. D'abord, c'est l'heure de la carte blanche du mercredi, signée ce soir Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Nicolas Bouzou, économiste, habitué de la carte blanche du 18-20. Alors ce soir, mon cher Nicolas, vous avez décidé de vous intéresser aux modalités pour pouvoir se faire vacciner, notamment pour les plus de 75 ans. Il sera donc possible de prendre rendez-vous pour se faire par Doctolib et d'autres plateformes privées. Et vous, vous dites... C'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose. Alors, mon premier argument est de l'ordre de l'efficacité. Hein. Cette campagne de vaccination, c'est la politique publique pour la France la plus importante depuis 100 ans, sans doute, parce que pour sortir de la crise sanitaire et pour sortir de la crise économique et sociale, on n'a rien d'autre à ce stade que la vaccination, surtout avec l'arrivée des nouveaux variants. Et la prise de rendez-vous fait partie des maillons importants dans la chaîne de cette vaccination pour que ça fonctionne. Et je pense qu'on doit mettre toutes les chances de notre côté. Donc, il y aura évidemment un numéro de téléphone pour les gens qui veulent prendre rendez-vous par téléphone, mais une plateforme comme Doctolib, elle compte aujourd'hui 30 millions de comptes actifs. Il y a donc beaucoup de Français qui utilisent cette plateforme.
Oui, il y a des millions de Français qui prennent rendez-vous avec leur médecin chaque mois via cette plateforme, parce que c'est vrai que ça fait polémique, hein, l'utilisation de ces plateformes privées. Alors, il y a une autre raison qui vous pousse à penser que c'est une bonne idée.
Oui, c'est une raison d'ordre économique. Doctolib, c'est une entreprise qui est ce qu'on appelle une licorne, c'est-à-dire une entreprise qui a une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros, et des licornes en France, on en a malheureusement très peu. On en a une dizaine, et l'enjeu, c'est de les transformer en très grandes entreprises, comme les fameux GAFA américains, dont l'équivalent n'existe pas en Europe. Et faire appel à ce type d'entreprise, à une entreprise comme Doctolib, dans ce type de circonstances, c'est aussi lui permettre de grandir. Ce sont des entreprises qui fonctionnent avec des rendements croissants. Ça veut dire que plus on les utilise, plus elles sont efficaces et plus elles peuvent grandir vite. Et donc, quand la puissance publique peut jouer un rôle d'accélérateur de cette croissance, je pense que c'est extrêmement positif. Puis, il ne vous a pas échappé que ces derniers jours, on a eu beaucoup de polémiques sur la régulation des GAFA, à fort juste titre, et tout le monde a regretté, et moi le premier, qu'on n'ait pas de GAFA européen. Ben, je pense que si on peut avoir de très grandes entreprises européennes du numérique comme Doctolib, c'est une excellente chose pour notre continent et pour notre pays.
Tiens, j'ai une petite question en passant, Nicolas Bouzou. Oui. On sait comment ils gagnent de l'argent, ces gens-là, à Doctolib ?
Oui, absolument. Alors, ils sont rémunérés par les médecins ou par les hôpitaux. On a de plus en plus d'hôpitaux qui font appel à ce type de plateforme.
Pour être présent donc sur la plateforme.
Exactement.
Très bien. Ça ne devrait pas relever du service public tout de même, ce service de prise de rendez-vous ?
Vous avez raison. Et je pense que c'est un service public, mais en réalité, un service public, il peut être le secteur privé, pardon, peut-être mis au service de l'intérêt général. Et peut-être qu'en France, il faut qu'on apprenne à séparer dans nos têtes le service public et le secteur public. Le secteur public, c'est quelque chose qui est très important, mais le secteur privé peut lui aussi remplir des missions de service public.
Oui, d'autant que le gouvernement a mandaté le cabinet McKinsey, par exemple,
pour
s'occuper de la campagne de vaccination.
Exactement.
Merci Nicolas Bouzou pour cette carte blanche. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on va faire un peu de prospective, comme on en a l'habitude dans Europe Soir. On va se projeter dans l'année qui nous attend et au-delà. Comment la crise du Covid est-elle en train de rebattre les cartes de notre quotidien, mais aussi les grands équilibres du monde? La Chine, par exemple, qui va devenir peut-être demain le maître du monde. Ça change quoi pour nous, pour nos industries, pour la marche du monde, pour notre quotidien? Et pour ce faire, on vous propose ce soir un grand débat en partenariat avec Courrier International. On en parle donc ce soir avec Virginie Lepetit. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Courrier International qui sort un numéro absolument passionnant donc sur le monde en 2021 et ça sort précisément aujourd'hui dans vos kiosques. On en parle également avec Frédéric Ancel. Bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et auteur de Les 100 mots de la guerre aux éditions PUF, sorti en 2020. On en parle également avec Romain Delavenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des activités conseil chez Nigist, une société de conseil de technologie sur la transformation numérique notamment. Alors je commence par vous évidemment Virginie Lepetit de Courrier International. Vous avez vraiment la conviction que le monde sera désormais très différent de celui que nous avons connu avant la pandémie ?
Alors en tout cas c'est ce qu'on publie dans ce hors-série qui est une traduction du hors-série de The Economist et des équipes de The Economist qu'ils publient depuis 30 ans, où ils prennent le risque d'annoncer ce qui se passera l'année suivante. C'est quand même un grand risque, c'est assez périlleux comme exercice. Et de toute façon, la crise a effectivement changé le monde et est venue parfois, non pas révolutionner, mais accélérer des tendances qui s'étaient déjà installées. Et c'est vrai en géopolitique, en économie et aussi en technologie et dans nos usages quotidiens, évidemment.
Alors justement, je voudrais qu'on... on démarre par les changements qui s'annoncent pour notre vie quotidienne. Parce qu'il y a plein de choses dans les articles que vous publiez dans ce hors-série de Courrier International. L'un des changements profonds, c'est le passage par exemple au tout numérique. En 8 semaines, dites-vous, avec ce confinement mondial, on a fait un bond de 5 ans dans l'usage du numérique et on apprend des choses absolument passionnantes. Par exemple, les paiements sans cash sont à des niveaux aujourd'hui qu'on attendait dans 5 ans. Donc on a vraiment 5 ans d'avance sur le e-commerce. Et en Italie, par exemple, on apprend dans le journal, vous citez l'exemple des petites mamies italiennes qui ont découvert les joies du shopping en ligne. Romain Delavenne, ça c'est un changement qui va rester après la crise du Covid.
C'est un changement qui est maintenant structurel. Par exemple, on parle du e-commerce, les grandes sociétés de distribution, les Carrefour, Intermarché, Auchan, ils ont à peu près fait leur chiffre d'affaires en 6 mois, ce qu'ils avaient prévu en 1 an. Donc, ils ont gagné 1, 2, 3 ans, en fait, sur leur perspective d'e-commerce.
Mais est-ce que c'est souhaitable? Parce que c'est la mort du commerce traditionnel, quand même, le boom du e-commerce. Avec des plateformes qui ont très peu de salariés, finalement, et qui achètent des produits à l'autre bout de la planète, ça détruit notre tissu industriel aussi.
Alors, pas forcément, parce que déjà, une plateforme e-commerce pour un petit commerce, c'est pas très compliqué à mettre en place, hein, et c'est pas très cher. Enfin, mettre une plateforme e-commerce, c'est 10-15 000 euros.
Oui.
Par contre, ce qui est compliqué, c'est la plateforme logistique. Alors, quand vous êtes un petit commerce distribué à petit volume, en fait, c'est faisable. Quand vous êtes un grand commerce et toutes les grandes sociétés de distribution et les grandes anciennes, en fait, ont vu leur plateforme craquer pendant le premier confinement. Et on font face, en fait, et c'est ça l'enjeu du e-commerce aujourd'hui, c'est de mettre en place la plateforme logistique, donc la distribution, les coûts, la préparation des colis,
oui,
d'une façon industrielle. Et c'est là où il y a un enjeu technologique, et c'est là aussi, d'ailleurs, il y a une vraie guerre entre...
Évidemment, la prime va quand même au leader. Je vous cite un exemple dans la vente en ligne de vêtements Zalando, qui est une grande plateforme d'achat de e-commerce de vêtements, qui a profité évidemment du confinement partout en Europe, hein, et je ne parle pas seulement de la France. D'ailleurs, on apprend dans le journal que même les Indiens sont mis au e-commerce, alors qu'ils étaient plutôt sur un commerce traditionnel. Il y a quasiment 90% des Indiens qui ont, pour la première fois, acheté des objets, des vêtements en ligne. L'essor du e-commerce en France, c'est 140 000 emplois détruits en 10 ans. Imaginez ce que ça va donner après le confinement. Ça vous effraie, ça vous, Frédéric Ancel ?
Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a évolution, et je reprendrai le mot très juste de madame, accélération hein, de phénomènes de tendance lourde qui étaient déjà en œuvre, hein, on peut monter encore plus d'un cran quand on parle de l'économie de marché de manière générale, c'est pas le Covid qui va y mettre fin, au contraire d'ailleurs, lorsqu'on évoque les grands rapports de force entre les puissances, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas ça qui va le remettre totalement en cause. En revanche, effectivement, on a une accélération qui peut faire peur, et notamment pour ceux qui vont perdre, ou qui ont déjà perdu d'ailleurs, des emplois dans les secteurs entre guillemets dits traditionnels. Mais vous avez d'autres secteurs comme par exemple une partie de la distribution, bien évidemment la restauration à emporter, là je ne vous fais pas un dessin, qui au contraire crée des emplois. Donc à chaque fois qu'il y a rupture et accélération, vous avez d'une manière ou d'une autre un changement. Celui-ci est relativement brutal, mais simplement une nuance si vous le permettez. En géopolitique, on essaye toujours de prendre les temps longs chers à l'historien Fernand Braudel. La peste justinienne du 6e, la peste noire du 14e, la grippe espagnole, et je vous ferai grâce de toutes les autres épidémies, fondamentalement, je pense qu'on va y revenir, n'ont pas modifié de manière radicale les grands équilibres et surtout les grands systèmes à la fois de pensée, les systèmes menant à la paix ou à la guerre, l'établissement des rapports de force entre les sociétés ou au sein même des sociétés entre individus. Par conséquent, je pense qu'on est beaucoup dans l'émotion, on est encore en pleine pandémie, on ne sait pas du tout de quoi sera fait 2021, mais simplement si on regarde un tout petit peu plus haut, notamment dans le temps, il y a comme de quoi être relativement rassuré.
Ah, bon, bah c'est une bonne entrée en matière, cette introduction de Frédéric Ancel, mais il y a quand même, moi, quelque chose qui me frappe, c'est l'essor de la Chine. La Chine, et on l'apprend dans Courrier International, qui pourrait prendre de plus en plus d'importance. Et vous allez voir que c'est lié à notre vie aussi du quotidien. On en parle juste après la pause, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 2 minutes, on continue le débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à l'année qui vient. Le Monde en 2021, titre le supplément du Courrier International avec qui on est en partenariat pour ce grand débat ce soir du Club des Idées. On continue à en parler avec nos invités et on va s'intéresser au basculement du leadership. La Chine, demain, toute puissante. C'est ce qu'on apprend dans votre hors-série, Frédéric Lepetit. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à Courrier International. C'est vrai que c'est elle, aujourd'hui, la Chine qui s'en sort le mieux. D'abord, elle a quasiment vaincu l'épidémie. Et le rebond économique est attendu à 8% en 2021, là où les États-Unis auront seulement un timide 3% de reprise. En quoi ce changement pourrait changer le monde ?
Alors, il était déjà en cours, hein, le basculement avec une Chine qui est de plus en plus hégémonique, c'était déjà en train de se faire. Mais effectivement, la Chine a géré l'épidémie, dit-elle, d'une façon exemplaire, et son économie n'en a pas souffert. Et elle a même trouvé des relais, puisqu'elle avait ce grand projet des routes de la soie, hein, la BRI, Belt and Road Initiative, qui était un grand projet d'infrastructure. Donc ça, c'est un peu à l'arrêt, parce que évidemment la crise l'a mis à l'arrêt, mais elle trouve des relais, notamment par une diplomatie du vaccin, notamment par des investissements en Afrique. Donc la Chine, effectivement, est en train, économiquement en tout cas, de prendre une place de plus en plus importante.
Très intéressant cette histoire du soft power de la Chine par les vaccins qui a pris un peu tout le monde de court, et notamment les États-Unis et l'Europe. Hein, ça lui donne un avantage diplomatique important, ça, Frédéric Ancel ?
En tout cas, elle en joue. Le Covid est instrumentalisé, comme d'autres phénomènes, naturels ou pas d'ailleurs. Hein. On instrumentalise ce qu'on peut, notamment lorsqu'on assume son rôle de puissance, et c'est bien évidemment le cas de la Chine.
Mais ce n'est pas juste de l'instrumentalisation, parce que ça repose sur des faits quand même. La Chine a développé un vaccin qu'elle a proposé à ses pays voisins, la Thaïlande, l'Indonésie, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, les Philippines, et donc ça lui donne... une espèce de pouvoir sur ces pays-là, d'une
c'est
certaine
ça,
manière.
Un outil, finalement. C'est ça, donc un instrument, quelque part. Donc un atout, si vous préférez. Je préfère le terme d'atout, je veux bien. Oui, mais alors, elle en joue beaucoup avec peut-être une nuance. D'abord, les débuts de la crise liée au Covid, on n'en sait pas grand-chose, et il y a eu une question de crédibilité. Et ça, pour les Chinois, c'est un boulet. Et il faudra bien, de toute façon, qu'ils nous expliquent comment ça s'est passé au début et pourquoi ils ont été lents à nous donner des informations. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, quand même, c'est que les Chinois se rendent compte qu'un certain nombre d'investisseurs nord-américains, sud-américains, européens bien sûr, vont sans doute moins délocaliser en Chine, en tout cas, de produits considérés comme stratégiques. Et maintenant, le sanitaire est considéré comme stratégique. Donc, de ce point de vue-là, les Chinois vont être obligés, en quelque sorte, de mettre les bouchées doubles hein, sur, effectivement, d'autres produits. Enfin, l'hégémonie, là, je serais tout à fait d'accord avec ce terme-là. J'ai presque envie de vous dire que la ré-explosion de la Chine sur le plan économique va inciter les Européens, on l'a déjà vu il y a quelques mois, et j'espère que pour 2021, ça va se poursuivre, va inciter cet hégémonisme, va inciter les Européens à être moins naïfs, car nous avons été naïfs.
Oui.
La route de la soie,
oui,
c'est une route parsemée de bases militaires.
Oui.
Il faut être extrêmement clair. Et entre parenthèses, et je finis là-dessus, on n'attendait pas les Chinois aussi fortement en Afrique, avec une exploitation dont les conditions peuvent être discutées quand même, hein, aussi massive il y a 30 ans. On n'attendait pas les Chinois à une base militaire à Djibouti il y a encore 10 ans. On n'attendait pas, il y a 5 ans seulement, des investissements stratégiques chinois au Portugal, en Italie et en Grèce.
Moi, j'ai envie de ramener ça aussi à nous, les Français, à notre quotidien. Parce que je disais tout à l'heure, avant la pause, les deux sont liés. On parlait des grandes plateformes qui vont acheter en Chine. C'est aussi ça, d'une certaine manière, l'hégémonie et la puissance économique qui est en train de prendre la Chine. Je vous cite un exemple très très concret hein, pour tous les gens qui nous écoutent. Le basculement du Covid a changé notre rapport à la mobilité. On prend maintenant beaucoup dans les milieux urbains des trottinettes électriques. Elles ont bondi, les ventes de trottinettes électriques, partout en Europe. Elles sont fabriquées où ? En Chine. Ça aussi, c'est une manière de prendre le pouvoir, Romain Delavenne.
Il y a deux choses. Il y a effectivement déjà l'hégémonie chinoise sur les plateformes, elle existait. Parce que nous, on est en France, c'est vrai qu'on regarde beaucoup Amazon, Netflix, Facebook, sauf que WeChat, Alibaba et autres, c'est exactement la même chose sur toute l'Asie. Donc aujourd'hui, les moyens de paiement digitalisés que vous citiez, elles sont chinoises en fait, en Asie, sur toute l'Asie, hein, ce qui est assez gros.
Mais c'est-à-dire que l'outil productif demain est en train de se déplacer. C'était déjà un peu le cas hein, dans un certain nombre de secteurs. Le textile, on a longtemps dit que la Chine était l'usine du monde. L'outil productif est en train de plus en plus de se déplacer vers la Chine au détriment des Amériques et de l'Europe.
Alors moi, j'ai le sentiment que le cheval de bataille de la Chine sera plus sur les plateformes aujourd'hui que sur l'outil productif. Par exemple, ce qu'on a constaté, on est aussi basé en Asie, c'est qu'en 2018-2019, avec la guerre économique, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont délocalisé des usines au Vietnam, en Malaisie et autres, en fait, pour éviter les droits de douane, parce que c'était produit en fait, dans des pays qui n'étaient pas chinois.
Oui.
Et en fait, il y a eu un... Et on l'a bien vu, parce qu'il y a eu un vrai... un vrai basculement en fait, de l'outil productif en partie en dehors de Chine. Par contre, à l'inverse, l'importance donnée à ces plateformes technologiques, digitales, s'est accrue en termes d'hégémonie. Et puis, on l'a vu récemment avec Jack Ma. Hein,
oui. Qui a disparu. On ne sait pas où il est. Voilà, c'est le patron d'Alibaba, l'un des hommes les plus riches du monde, qui a totalement disparu. Virginie Le Petit, rédactrice en chef de adjointe de Courrier International, pour compléter ce qui vient d'être dit, moi j'ai une question un petit peu bête. D'ailleurs, on n'y répond pas tout à fait dans le magazine que vous publiez. Est-ce que demain, cette hégémonie de la Chine, ça veut dire qu'elle va imposer aussi ses règles, des normes par exemple? Est-ce que demain on sera envahi de produits chinois avec les normes chinoises qui sont évidemment pas tout à fait les mêmes que chez nous en Europe?
Alors, c'est jusque-là, c'est pas ce que la Chine a fait. Hein. Elle s'est plutôt adaptée aux normes européennes en l'occurrence. Non, je pense que on sera beaucoup plus sur un soft power et sur une proposition de produits intéressants. Comme on l'a déjà avec un grand nombre de produits, d'ordinateurs, de téléphones mobiles. Enfin, voilà. La vérité, c'est qu'il n'y a pas, à part en Chine et à Hong Kong, quelque chose d'aussi radical qui s'impose au reste du monde. La Chine propose des infrastructures, propose des prêts, propose des outils. Et qui sont en général très concurrentiels.
Mais la Chine acquiert aussi des technologies. C'était toute la problématique du transfert de technologies, par exemple pour les avions, pour Airbus, pour l'automobile. Maintenant, les Chinois nous ont, pardon de l'expression, mais un peu piqué nos savoir-faire et produisent « made in China ».
Enfin, on leur a donné, parce qu'ils n'ont pas forcé. Vous avez tout à fait raison, il y a 20-30 ans encore, tout à l'heure vous avez employé, je crois, le terme très juste d'usine ou d'atelier du monde. Aujourd'hui, il reste encore le principal atelier du monde, sauf que c'est aussi le premier laboratoire du monde, mais c'est aussi le premier, la première pépinière ingénieriale du monde, en tout cas juste derrière les États-Unis, alors qu'en Europe, on aurait tout pour distancer les Chinois à ce niveau-là. Donc effectivement, on a aujourd'hui un hégémonisme qui passe par l'utilisation d'outils, alors, et parfois de normes. Alors c'est vrai que ce n'est pas encore beaucoup le cas, en tout cas beaucoup moins que les Américains, par exemple, qui ont été très grands producteurs de normes à tout point de vue. Tandis que les Européens commencent enfin, me semble-t-il, hein, c'est ce que j'affirmais tout à l'heure, à prendre conscience qu'il faut être créateur de normes aussi, hein, faute d'être un atelier du monde.
Virginie Le Petit.
Oui, parce que par exemple, il y a quand même des secteurs qui sont notamment ceux de l'enseignement universitaire où les Chinois déplorent de voir partir leurs jeunes chercheurs aux États-Unis notamment, qui restaient, enfin jusqu'à ce que Trump ferme vraiment les frontières, mais il est possible que Joe Biden soit beaucoup plus souple sur tout ce qui est universitaire. C'est un problème, ça, par exemple, pour le gouvernement chinois. C'est pas une bonne nouvelle.
Alors, on parlera dans quelques secondes de la place de l'Union européenne, évidemment, face à cette menace chinoise. Et puis la France, comment va-t-elle résister? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on poursuit le débat du Club des idées absolument passionnant ce soir sur l'année qui vient, le monde qui vient en 2021, en partenariat avec Courrier International qui publie un hors-série sur la question et qui est évidemment présent avec moi ce soir en studio. Alors on évoque depuis tout à l'heure la Chine qui va devenir peut-être demain le maître du monde. Et pendant la pause, on évoquait avec vous, ma chère Virginie Le Petit, rédactrice en chef adjointe du Courrier International, la culture aussi chinoise, la culture sociale. Est-ce que demain, cette culture sociale, elle peut arriver chez nous en France?
Alors, pas la culture sociale, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, les outils mis en place par le gouvernement chinois pour exploiter les données personnelles des habitants, donc via tout ce que vous avez cité, Weibo, WeChat, donc tous les outils numériques, ça, le gouvernement chinois expérimente, et maintenant on est au-delà de l'expérimentation, un système qui s'appelle le crédit social et qui fait qu'en fonction de votre comportement, alors de votre comportement en tant que bon ou mauvais payeur, des gens que vous fréquentez sur les réseaux sociaux, des opinions que vous exprimez, de tout un tas de choses, vous avez un classement. Et ce classement vous donne le droit ou non de voyager, le droit ou non d'accéder...
Ça existe déjà en Chine.
Mais oui, ça existe déjà.
C'est-à-dire qu'on a des notes qui nous donnent accès à certains... services.
Plus que des services, c'est-à-dire que si vous êtes mal noté, vos enfants n'accéderont pas à l'université quand bien même ils en auraient le niveau.
Et sur quoi elles sont basées ces notes, Frédéric Ancel ?
Ah bah d'abord, sur des critiques éventuelles faites vis-à-vis du régime, ça c'est absolument... C'est très 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 mauvais. N'essayez même pas.
Et puis le comportement au quotidien, si on est un bon ou mauvais citoyen, c'est ça.
Le comportement au quotidien avec les autres, avec vos collègues en entreprise, dans la rue, si vous avez eu un geste plus ou moins mal placé, vous perdez un certain nombre de points. Et surtout, les mesures de rétorsion sont terribles. Aujourd'hui, vous avez entre 20 et 25 millions de citoyens chinois qui n'ont plus le droit de sortir du pays, plus le droit de voyager. Parce qu'ils ont des mauvaises notes. Donc, c'est d'autant plus terrible que c'est un système qui se rapproche de 1984, d'Orwell. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas affaire, et ce n'est pas injurier le peuple chinois que de dire cela, on n'a pas affaire à une démocratie, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. On a même affaire à un État qui était autoritaire et qui se radicalise vers une forme de totalitarisme.
Donc, Romain Delavenne, vous êtes responsable des activités conseil dans une société de technologie sur la transformation numérique. Vous connaissez évidemment bien ces questions. Parce que ça permet les données de contrôler les esprits d'une certaine manière, c'est ce qu'on vient de raconter avec Frédéric Ancel. Donc c'est ça aussi le danger qui nous guette d'un soft power trop important chez nous en France.
Oui, de contrôler, de les augmenter. On peut effectivement tout à fait imaginer que l'utilisation de ces données augmente en fait la performance individuelle. Et ça c'est vraiment inquiétant parce qu'on pourrait être confronté à un choix entre est-ce qu'effectivement on utilise ces données personnelles dans un but de meilleure performance ou même dans une meilleure performance de gestion de crise, parce que clairement ça a été utilisé en Chine pour contrôler les comportements des individus et les rendre beaucoup plus respectueux des règles, versus effectivement ce qu'on a en Europe, qui est un respect très fort de la donnée personnelle.
Donc quand on achète sur Alibaba, quand on achète sur les plateformes chinoises, quand on est un appareil smartphone chinois, quand on est chez Huawei par exemple, ça veut dire que le gouvernement chinois est en capacité de capter nos données pour peut-être demain nous appliquer des normes sociales comme celles qu'on évoque ?
C'est déjà le cas.
C'est déjà le cas.
C'est effectivement ça qui alimente effectivement cette note sociale.
Il est en capacité, et pire que cela, il est en volonté. Parce qu'au fond, on pourrait considérer que nos gouvernements, ainsi que les gouvernements successifs des États-Unis, ont la capacité technique de savoir énormément de choses. C'est déjà le cas, fondamentalement, ne soyons pas hypocrites, aux États-Unis, en Europe et dans un certain nombre d'autres pays. Mais là, il y a une volonté de contrôle de type aujourd'hui, non seulement sociétal, mais déjà quasi totalitaire.
Alors, pour s'en sortir, il y a quand même des raisons d'espérer, Virginie Le Petit. Il y a l'Union européenne qui, vous l'expliquez très bien à travers les articles que vous publiez, qui est à la croisée des chemins, si l'on peut dire. Angela Merkel va quitter ses fonctions. Il y a un leadership à récupérer aujourd'hui en Europe, mais ça peut vraiment être un contre-pouvoir, un contrepoids à cette hégémonie chinoise ?
Alors, l'Europe aimerait bien, en tout cas l'Union européenne et Ursula von der Leyen, aimerait bien...
La présidente de la Commission.
Oui, pardon, la présidente de la Commission européenne, aimerait bien ne pas être pris entre deux feux, entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, dans cette guerre commerciale qui se joue. Après, l'Europe devrait être en mesure de jouer sa partition. Il faudrait qu'elle soit en mesure de jouer une partition qui soit... Voilà. On risque fort quand même d'avoir avec Joe Biden, qui est un diplomate, qui va chercher des alliés dans cette guerre commerciale en étant moins brutal que Joe Biden et en jouant plutôt des coalitions multilatérales.
Oui.
On risque fort quand même de retrouver l'Europe en allié des États-Unis sur certains points, quoi. Mais oui, là, il va y avoir quelque chose, en tout cas, pas une crise du leadership, mais il y aura une place vacante qui est celle d'Angela Merkel qui va être à prendre dans l'Union européenne.
Mais on aura la capacité, nous, Européens, à résister à ce rouleau compresseur chinois, Frédéric Ancel ?
La réponse est oui. La capacité, oui. Je reprends votre terme, c'est très important, j'insiste. La capacité, oui. Si vous me posez la question de la volonté, c'est bien ce qu'on verra dans les prochaines années. Or, si nous ne mettons pas la volonté de notre côté, autrement dit, si nous ne créons pas une représentation, pour reprendre un terme cher à Yves Lacoste, une représentation pan-européenne, en quelque sorte, quasi-nationale, pour aller plus loin, finalement, que ce qu'on a fait et ce qui a déjà été réussi dans une large mesure, à savoir une Europe commerciale, normative, peut-être diplomatique, mais si on ne se crée pas, je vais employer un gros mot, en tant que puissance, et puissance globale, qui s'assume comme telle, alors on finira par se faire croquer. Et ce qui est triste, c'est que nous avons toutes les capacités d'être une véritable grande puissance.
Romain Delavenne.
On a tout sauf une chose, qui est le marché. C'est-à-dire que la différence qu'on a entre l'Europe et la Chine ou les États-Unis, c'est qu'on a un marché très éclaté.
Oui.
Je vais vous donner un exemple sur les opérateurs télécoms.
De toute façon, il y a le nombre d'habitants déjà pour commencer. Ils sont plusieurs milliards, on est quelques centaines de millions.
Oui, puis c'est très morcelé. C'est-à-dire que, par exemple, les télécoms, 90 opérateurs en Europe, 3 ou 4 aux États-Unis, 3 en Chine.
Oui.
Donc ça donne une puissance technologique et d'imposition qu'on n'a pas.
Beaucoup plus importante que la nôtre.
La volonté est primordiale, mais la volonté est primordiale pour aussi imposer en fait des acteurs qui bénéficient d'un marché, qui soient des vrais leviers, parce que ce soit sur les technologies ou les plateformes, ce qui fait la puissance, c'est le volume en fait.
J'ai une dernière question à vous poser, Virginie Le Petit, très brièvement. Bon, vous allez me dire c'est compliqué de répondre en trois mots, mais est-ce que 2020 sera une année et peut-être demain un monde plus juste ?
2021 ?
Parce qu'il y a des pour et des contre. 2021, bien sûr. Il y a des pour et des contre dans le projet international.
Je ne le crois pas. Je pense que ça sera un monde beaucoup plus inégalitaire et que dans les accélérations provoquées par la crise sanitaire, il y a des inégalités beaucoup plus flagrantes et beaucoup plus grandes. La pauvreté, l'extrême pauvreté va augmenter. L'accès à l'éducation, puisque tous ceux qui n'ont pas accès aux outils numériques ont perdu une année, là, très clairement. Donc je pense malheureusement que le monde ne sera pas plus juste, il sera plus inégal.
Bon, mais j'espère que vous vous trompez. Pardon de vous le dire comme ça, j'espère que vous vous trompez très sincèrement. En tout cas, ça sort en kiosque aujourd'hui. Le Monde en 2021, courrier international avec The Economist. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir les invités d'Europe Soir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h49 dans quelques secondes, les archives. Et ce soir, on va revenir sur la sortie d'un film culte qui a suscité la controverse. Orange Mécanique en 72. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives, comme tous les jours à cette heure-ci, quand le passé éclaire l'actu, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Et ce soir, du grand cinéma au programme avec vous, Rémi Botsaron. Il y a 48 ans exactement, bonsoir, le 13 janvier 72, sortait au cinéma l'un des films, on peut le dire, les plus controversés de l'histoire.
Oui, un film célèbre notamment pour cette chanson interprétée par son personnage principal. Vous l'avez reconnu peut-être, Julien. Singing in the Rain, ouais, chantons sous la pluie, mais dans une version bien particulière, celle qu'on entend dans Orange Mécanique, le film de Stanley Kubrick.
Mais rien que la musique et le son est dérangeant.
Ça
là,
fonctionne
déjà. Ça me rappelle
déjà.
Le film. Ça fonctionne. Ouais, c'est un film qui a choqué en raison de la violence montrée à l'écran, évidemment.
Ouais, en particulier dans cette scène qu'on entend. C'est l'une des premières, et on le rappelle, l'histoire, c'est celle d'un jeune délinquant ultra-violent, Alex, qui sévit avec sa bande, les fameux Drugs, avec leurs salopettes blanches et leurs chapeaux melons. Dans cette scène, ils agressent un couple à son domicile. Ça ira jusqu'au viol de la femme, tout ça donc en chantant, scandale immédiat, comme le constate à l'époque le critique François Chalet, interrogé sur Europe numéro 1.
Lorsqu'on a présenté ce film en privé, la bonne société française est partie au bout de 10 minutes, la plupart, en disant « c'est un scandale, qu'est-ce que c'est affreux, c'est pas possible ». Bon, moi, une fois qu'il passait dans les salles, j'ai acheté mon ticket, je suis rentré, j'ai fait la queue, je me suis assis et j'ai vu que c'était complet. Et depuis, c'est tout le temps complet, il faut bien le dire.
La bonne société crie au scandale, mais le succès est immédiat. C'est vrai en France, c'est vrai aussi au Royaume-Uni.
Et pourtant, le film a été retiré des salles au Royaume-Uni.
Oui, à cause du scandale. Et c'est Stanley Kubrick lui-même qui finit par demander le retrait de son propre film, comme le rappelait récemment sur la BBC l'acteur principal Malcolm McDowell.
He withdrew it on the advice of Scotland Yard because he'd...
Il explique que Stanley Kubrick a décidé de retirer le film sur les conseils de la police parce qu'il recevait des menaces de mort. Et il n'est pas le seul à être attaqué à l'époque. Certains s'en prennent aussi à Anthony Burgess, l'auteur du livre Orange Mécanique, adapté par Kubrick. Certains lui reprochent d'inciter à la violence, ce à quoi il répond ceci à la radio italienne. Si c'est de ma faute quand un garçon attaque des vieux ou assassine une femme après avoir vu le film, alors c'est de la faute de Shakespeare quand un garçon assassine son oncle après avoir lu Hamlet.
Oui, c'est juste. Alors si le film dérange, c'est aussi parce qu'il y a un propos politique.
Oui, parce qu'une fois qu'Alex est arrêté, il est torturé. C'est la fameuse scène où il est obligé de regarder des images atroces, les yeux grands ouverts, on lui met des écarteurs de paupières. La police lui lave le cerveau pour qu'il rejette la violence. La violence de l'individu est sanctionnée par une violence tout aussi effrayante. C'est de la science-fiction, mais avec un propos universel, selon Malcolm McDowell.
This movie is about
C'est un film sur le droit de choisir comment on mène notre vie. On peut décider d'être un bon citoyen ou d'être antisocial, mais l'État n'a pas le droit de s'en prendre à notre intégrité. Voilà ce que dit McDowell, interrogé par l'Institut américain du film, institut de référence qui classe ce film aujourd'hui parmi les 100 plus grands de l'histoire. Et pourtant, les Britanniques n'ont pas pu le voir pendant 28 ans à cause du scandale. Donc, Orange Mécanique n'est ressorti sur les écrans au Royaume-Uni qu'en l'an 2000, après la mort de Stanley Kubrick.
Eh bien, merci pour toutes ces infos. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Merci, Rémi Botsaran.
Europe 1, Julien Bugier.
Le rappel de l'info dans quelques secondes avec Julien Pierce et puis la musique avec Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Salut Julien.
De quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on écoute ce soir ?
Alors ce soir, on va parler caricature, mais normalement pas de débat et tout le monde va rigoler puisqu'il s'agit de caricatures de chanteurs et de chanteuses, de Stromae à Maître Gims en passant par Angèle ou encore M. Pokora, même les Kids United, même les enfants ne sont pas épargnés dans ce bouquin très rigolo qui s'appelle « Ils nous font chanter ». C'est un livre d'Albert Algou, alors qu'on connaissait plutôt connaisseur de Tintin. Mais voilà, la jeune scène française le fait marrer aussi. Et donc, c'est un bouquin de caricature et de portrait qui est très, très chouette.
Et donc, on dit Stromae.
Eh ben oui, en fait, c'est le verlan de Maestro.
Ah, je croyais que c'était Stromae. Rien compris, moi. Rien compris.
Oh, j'ai appris un truc à Julien Bugier, je suis trop contente. Vous êtes mon peuple le plus diplômé.
Diplômé, je ne sais pas. Je sais quelques trucs, mais diplômé, je ne suis pas sûr. Merci Émilie.
Merci Julien.
On te retrouve dans un instant avec ton émission, avec un grand plaisir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à 18h. Belle soirée.
Europe 1. Écoutez le monde changer.